Les bonnes feuilles. 40 romans de la rentrée littéraire, lus par leur auteur. Aujourd'hui, Un homme dangereux, d'Émilie Fraîche, aux éditions Stock.
J'ai choisi de lire le début de Claire de Jacques Chardon. La beauté de Claire, c'est elle-même. Claire est tout entière inscrite sur son visage et dans la forme de ses bras. Ce qui me plaît dans son esprit est visible sur ses lèvres. Je l'ai connue en la regardant. Je voudrais que cette belle femme laissât mon amour plus inconscient. Je suis trop attachée à une image exposée au temps. Je vois la fragilité de ce que j'aime. Sur un visage parfait, les nuances sont très sensibles. On devine l'ombre des jours qui vont le défaire. Elle a 30 ans. À cet âge, on change. Déjà, n'est-ce pas une figure disparue que je veux retrouver constamment, qui m'est rendue par échappée, ou bien que je projette sur des traits différents? À tout moment, je me sens frustrée par d'imperceptibles substitutions. La beauté passe, on le sait. Claire peut se transformer en d'autres femmes encore aimables, et il y a un charme dans le déclin. Mais je veux garder la femme d'aujourd'hui, trop bien déterminée pour moi. Je ne consens pas que tout soit égal dans le monde. Le meilleur et le pire voué à l'oubli, et que pour moi seul est paru dans un jardin, près de Fontainebleau, caché à tous, inconnu. Mortel, une de ces raretés humaines qui justifient la vie. La mémoire ne garde rien intact. Aussi, je suis devenu un bon photographe. Sur ma table, dans les tiroirs, dans mes livres, j'ai des photographies de Claire accumulées depuis 5 ans, comme si je pouvais saisir, par la multiplication des images, ce qui manque à chacune. Je ne les regarde pas. C'est en elle-même qu'elle est enfermée vivante, changeante, unique. J'écris ce livre pour laisser d'elle un souvenir. Il me semble que si je parvenais à la représenter, j'accepterais sa disparition. Je l'aimerais avec plus d'abandon et sans regret. Mais je suis gênée par les mots qui la dévoilent. Une pudeur me retient, qui est au fond de tout amour comme dans l'art. Il est étrange que je surveille si âprement la jeunesse de Claire, alors que je devrais me considérer comme vieux. Pour moi, les années ne passent que sur elle. Cela tient à mon âge. Quand je l'ai connue, elle était jeune, et j'ai cru que je ne la verrais jamais vieillir. Alors j'ai une vraie passion pour cet auteur depuis très longtemps. C'est son histoire, c'est sa manière de traiter des sujets absolument universels. C'est la beauté de la langue aussi, cette précision, cette simplicité qui me rend jalouse. J'aimerais atteindre ça, à cette économie de mots qui est pour moi le signe des grands. Et je trouvais que c'était bien de le choisir aujourd'hui, que je viens vous présenter Un homme dangereux, puisque c'est le premier texte qui paraît chez Stock et que Chardon a dirigé cette maison. Donc c'est comme une espèce de filiation pour moi.
Un homme dangereux, vous venez de le dire, et c'est le titre de votre nouveau roman, Émilie Fraîche, qui s'apprête à paraître aux éditions Stock et dont vous allez nous lire les premières pages.
Nous n'avons pas échappé aux statistiques. Comme 80% des couples, après 15 ans de vie commune et 2 enfants, Adam et moi ne couchions plus jamais ensemble. Mais j'aimais encore mon mari. Je prenais du plaisir à le retrouver au beau milieu de la journée pour aller boire un café, partir avec lui en week-end sans nos filles, le regarder lire les journaux de façon compulsive et manger de la même manière, ou bien voir des films dans ses bras, puis m'y endormir en sachant très bien qu'il m'en voudrait pour cela. Adam était mon sang, l'unique personne sur cette terre dont je ne me sentais jamais étrangère, et j'adorais la vie que nous nous étions construites. C'était une vie douce, riche, gaie, sans souffrance, qui me laissait la tête libre et le cœur entier pour faire 1000 choses. Ainsi, au cours de ces 15 années, je fis Suzanne puis Léa. J'écrivis des nouvelles, des livres pour enfants, des scénarios qui ne se tournèrent jamais. Je signai un document sur l'affaire Ilan Halimi qui me valut d'être missionnée par l'Éducation nationale pour aller parler du racisme et de l'antisémitisme dans des lycées classés en zone d'éducation prioritaire. J'écrivis aussi des romans, 6 en tout, dont le dernier sur mon père que je parvins par miracle à porter à l'écran. Et cette existence dont je me disais chaque jour qu'elle était un cadeau du ciel, avait cela de formidable, qu'il me restait encore du temps pour faire du sport, aller dans les musées, fréquenter les librairies, voyager et même cuisiner sans raison, pour aucune occasion, simplement parce que la vie était belle et qu'il fallait en profiter. Combien de dîners ai-je pu organiser au cours de cette décennie ? La seule perspective de ce calcul me donne le vertige. À une époque, j'en donnais au minimum un par semaine pour réunir les amis qui, eux, ne nous invitaient jamais. Pas l'énergie, disait-il, et cela me fascinait. Je ne comprenais pas ce qui pouvait les exténuer à ce point. Moi, j'étais infatigable, littéralement increvable, et je pensais naïvement que c'était là une donnée de mon patrimoine génétique, ma nature, mon caractère, quand en vérité, je ne souffrais d'aucune sorte de fatigue, parce que sur la longue route que je m'étais tracée, j'avais fait couler une couche de goudron bien lisse et bien épaisse, laquelle avait effacé tout ce qui aurait pu me faire trébucher. Bosses, trous, fissures, crevasses. On ne se rend pas compte, mais la plupart des gens dépensent une énergie folle à se sortir des abîmes où ils sont tombés. Or moi, ne chutant jamais nulle part, j'en avais à revendre. J'en avais tellement que j'étais comme les milliardaires avec leurs billets de banque. Je ne savais plus quoi en faire. Un nouveau film, un autre enfant, un tour du monde. « Arrête un peu, me disait Adam, tu me donnes le tournis à la fin. » Nous avions 20 ans d'écart, ce qui était devenu, à mesure que nous vieillissions, une chose de plus en plus compliquée à gérer pour lui. On aurait dit qu'il craignait que j'attende de sa part des choses de mon âge, des choses qu'il n'aurait pourtant jamais faites même si je l'avais connu à 20 ans, comme par exemple le con au volant ou l'amour le matin, alors que c'était tout le contraire. Moi j'adorais qu'il soit plus vieux que moi, plus calme, plus détaché, plus serein, plus sage. D'autant que cela ne m'empêchait pas d'écumer les annonces des agences immobilières. Eh bien quoi ? Nous n'étions pas morts, il fallait bien bouger encore. Faire quelque chose. Et je n'avais rien trouvé de mieux que les déménagements. Adam n'avait à s'inquiéter de rien, je m'occupais de tout. J'adorais les cartons. Ouais, j'adorais cela. Et plus encore, visiter de nouveaux lieux, visualiser mes vies possibles, en choisir une et engager des travaux pour l'accueillir. Chaque fois, il me semblait que nous nous offrions une nouvelle chance, celle de se réinventer. Mais là encore, Adam ne voyait pas les choses du même œil. Il disait que c'était complètement stupide de continuer à louer, de l'argent foutu en l'air, que pour préserver nos filles, nous n'avions pas le droit de ne pas investir dans la pierre. Et sans doute avait-il raison. Mais je sais aujourd'hui que sa motivation profonde était ailleurs. Il voulait acheter pour nous enraciner. Il avait compris que la propriété était comme le mariage, un contrat qui, si on le laissait courir, pouvait survivre à tous les renoncements. Or c'était cela précisément qui m'angoissait. Et ainsi, à chaque année au réveillon, devant les amis qui se moquaient gentiment, il ne lui restait plus qu'à manifester sa crainte des cartons, en priant le verre levé, pourvu que cette nouvelle année ne nous voie pas encore changer d'adresse. Nous en avons changé 11 fois en 15 ans. Je ne sais pas si cela nous aura rendus fous, ou si nous avons sombré dans une longue et profonde dépression, comme le soutiennent bon nombre d'études sur la question. Mais ce qui est sûr, c'est que notre couple aurait duré bien moins longtemps si nous étions restés aux 7 rue du Mont-Abord, qui fut notre premier domicile. Car maintenant, je le sais, quitter un appartement est toujours une façon de retarder le jour où l'on quittera sa femme ou son mari. Mon mari était depuis longtemps dépassé par ma folle énergie. Peut-être même l'était-il depuis le début. Mais malgré son flegme légendaire et ses 20 ans de plus que moi, il finissait toujours par se laisser entraîner dans mon tourbillon d'activités en tout genre. Ainsi, lui qui détestait le sport par-dessus tout et les changements d'environnement, acceptait-il les randonnées à vélo le week-end, les voyages dans des pays exotiques, les séjours chez l'habitant plutôt que dans de grands palaces et les restaurants autres que ceux où il avait sa table. Il savait d'instinct qu'il me fallait recommencer sans cesse, bouger, changer, réinventer nos vies, et que si ne nous faisions rien, j'en serais morte. Nous n'avons plus rien fait à compter de la naissance de Léa, qui vient tout juste de fêter ses 10 ans. Je ne sais pas comment une chose pareille a pu nous arriver. Comment nous faisions l'amour, au début sans arrêt, 1, 2, 3 fois par jour, et puis de moins en moins et un beau matin, plus du tout. Non, je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. La fatigue, la lassitude, disent certains, mais l'habitude. Pourquoi n'y aurait-il pas à coucher avec quelqu'un comme il y a une dépendance au tabac, au jeu, à la drogue, à l'alcool ? Cela nous simplifierait tellement l'existence. Souvent, j'essaie de me souvenir de la dernière fois où nous nous sommes aimés, Adam et moi. Était-ce chez nous, à Paris, dans notre lit, notre salon, celui de nos amis dans cette maison sur la plage en Normandie ? Était-ce dans d'autres draps que les nôtres, quelque part en Europe où j'aimais l'accompagner, lorsqu'il était invité dans des colloques pour parler des nouvelles avancées de la chirurgie cardiaque ? Je ne me rappelle rien, aucun baiser, aucune caresse. J'ignore quelle position nous avons pu adopter, ni si ce fut long, doux, tendre, ou bien alors très triste. Et quelque part, cela me rassure. Car si notre dernière fois avait fait naître en moi du dégoût, sentiment qui m'étreint toujours pour le corps de l'autre quand je cesse de le désirer. J'en aurais gardé un souvenir intact. Or, le seul qui m'est resté est la date exacte à laquelle cette dernière fois a eu lieu. Je l'ai retrouvé par déduction, parce que sans m'en avertir, mon cerveau avait comptabilisé chaque jour d'abstinence et que certains matins, je pouvais me réveiller en me disant « Tiens, aujourd'hui, cela fait 748 jours qu'Adam et moi, nous n'avons rien fait. » La toute dernière fois, c'était en novembre 2004. Le 1er novembre exactement, jour où nous célébrons les morts, ce qui, tout compte fait, n'est pas une si mauvaise date pour arrêter de prendre le risque de se reproduire. Nous avons réalisé 1000 choses, Adam et moi, au cours de ces 15 années de vie commune. Nous avons bâti, rêvé, parlé et ri surtout, ri comme aucun autre couple. Mais quand je nous revois, c'est toujours la même image qui me vient et elle me mortifie. Nous sommes au lit, dans notre chambre. Lui porte un t-shirt et un caleçon, moi un sweat et un leggings. La télévision est allumée sur BFM. La même édition repasse en boucle. Nous l'avons déjà vue 3 ou 4 fois, de sorte que la fatigue commence à nous gagner. Et tels les personnages d'un mauvais téléfilm, nous nous souhaitons une bonne nuit, mon amour, ou un je t'aime sans âme, mécanique. Puis nous éteignons la lumière et nous nous tournons chacun de notre côté, dos à dos, aux deux extrémités de notre lit immense. Il fut un temps où sans doute faisions-nous en sorte de ne pas nous mettre au lit au même moment, où l'un d'entre nous attendait patiemment dans le salon que l'autre s'endorme, comme une forme de politesse à l'égard de notre couple, une façon de lui épargner le triste constat de ce qu'il était devenu. Mais je ne m'en souviens guère. Je me souviens seulement de nous dans ce lit immense, incapables de nous toucher même tout habillés, infoutus d'avoir pour l'autre le moindre geste tendre. Et cette solitude physique était d'une telle violence qu'aujourd'hui encore je garde en mémoire le sentiment que j'avais, quotidien, d'avoir raté ma vie, de mourir à petit feu. Alors parfois, mais c'était là le grand maximum, tel un pathétique lot de consolation, je demandais à Adam de me faire les cheveux. Je disais « faire les cheveux » comme j'aurais dit « faire l'amour », mais en vérité cela voulait juste dire « caresser ». « Peux-tu, s'il te plaît, me caresser les cheveux ?» Seulement ce verbe-là me semblait trop érotique, je ne parvenais plus à l'utiliser avec Adam. Il n'y avait plus aucun désir entre nous. Nous n'y pouvions rien. C'était une réalité aussi inéluctable que la marche du temps. Nous n'avions aucun moyen de lutter contre. Si bien que sans jamais avoir la vulgarité d'en parler, nous avions fini par en prendre acte. Mon mari me trompait-il ? Je n'en ai rien su. Mais si oui, sans doute le faisait-il pour l'hygiène, avec des filles qu'il devait payer afin de ne pas être tenu de les revoir. Adam n'avait rien à se prouver, ni besoin d'être aimé de quiconque pour se sentir aimable. Enfant élu d'une mère qui n'en avait pas eu d'autre, il n'était dupe d'aucune forme de séduction. Cela lui conférait une force qui me rendait jalouse. Contre lui, les autres ne pouvaient rien. Leur flatterie, leur intérêt, leur amour ne modifiaient jamais son équilibre émotionnel. Ses parents l'avaient aimé suffisamment pour que tout ce qui vienne par la suite ne soit jamais que du plus. Ainsi, Adam n'était pas de ceux qui s'égaraient. La tête haute, le regard fiché vers l'avenir, il savait toujours où il allait. Il avançait dans la vie avec cette conviction qu'on ne trouve que chez les religieux. Il était athée, mais sage. Et au début, moi aussi je l'étais. Oui, je l'étais. Nous ne nous touchions plus et pourtant je restais fidèle à mon mari. Je ne m'intéressais à aucun autre homme. Je n'entretenais pas de relations ambiguës. Je fuyais les rencontres au point qu'au fil des jours, j'avais fini par oublier que j'avais des seins, des hanches, des jambes, des fesses, un ventre, sinon dans la douleur de l'effort, car à cette époque, le sport était devenu ma drogue. J'allais nager 5 fois par semaine, palmer et fendre l'eau de mes bras tendus comme une furie, ou bien fouler les allées du bois de Vincennes à m'en faire péter le cœur. Mais ça ne suffisait pas. Le week-end, j'avais encore besoin de me dépenser. Si bien que je mettais mon vélo dans des trains qui m'emmenaient sur les chemins de halage d'Île-de-France, où je pouvais avaler mes 80 bornes sans souci. Parfois même, j'allais jusqu'à 100. Et quand je rentrais le soir, je n'arrivais plus ni à marcher ni à bouger. Mon corps entier était une plaie à vif. Mais mon esprit flottait à 10 000 pieds au-dessus de lui. Et j'étais bien.
En fait, c'est la conséquence, la banalité du quotidien que j'arrive à décrire. Ce que moi, je vais chercher, c'est la vérité de mes émotions et de mes sentiments. Donc, c'est vraiment décortiquer plus l'âme. Après, je rends compte du quotidien. Mais c'est jamais l'inverse, c'est jamais le décor. Le décor est toujours au service de mon propos, j'ai le sentiment. C'est beaucoup un livre sur la mise en danger. Tout est une mise en danger dans ce livre. Pas simplement cet homme, mais surtout l'écriture. Puisque je ne vais peut-être pas trop en dévoiler ici, mais c'est l'histoire d'une mise en abîme. C'est l'histoire d'une femme qui comprend que la seule manière de se sauver de cet homme dangereux, c'est d'écrire sur lui. Et donc, il y a une espèce de livre dans le livre. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, parce que ce livre arrive dans mon parcours à un moment donné où j'ai beaucoup écrit à partir d'éléments biographiques. Le précédent, Deux étrangers, était un livre très inspiré de mon père. Chouquette, avant, très de ma mère. Le film de Jacky Cuquier, est le père de mes enfants. Donc j'ai beaucoup mélangé la fiction et la réalité. J'ai beaucoup travaillé sur ça. Et ce livre arrive à un moment donné où on va chercher l'événement, on va chercher l'occasion pour pouvoir écrire dessus. Donc c'est qu'est-ce qu'on est capable de sacrifier pour aller écrire, pour aller chercher un livre. C'est vraiment ce point de rupture entre ce moment où on écrit des choses qu'on a vécues et puis on vit des choses pour pouvoir les écrire. Et là, l'écriture est une perversion, en fait. Et l'écriture devient un jeu dangereux.
Votre personnage, votre narratrice, à la fin de l'extrait que vous nous avez lu, elle dit qu'elle court beaucoup. C'est un exercice sportif aussi, d'écrire un livre comme celui-là.
Ah oui, extrêmement.
C'est physique ?
Mais l'écriture, c'est physique. Enfin, faut être en forme pour écrire. Moi, vraiment, je vois ça comme un marathon. D'abord, il y a une question de souffle, de longueur, de rapport au temps. J'aurais passé 2 ans sur ce texte à ne faire que ça. Enfin, et écrire pour le cinéma aussi, mais je veux dire, j'ai pas d'autres métiers au quotidien. Il faut tenir. Voilà. Donc oui, c'est physique, oui. Mais je pense pas que ce soit lié à ce texte. Je pense que, en fait, j'ai le sentiment que l'écriture romanesque, il faut toujours que ce soit une nécessité absolue. Sinon, justement, parce que c'est un temps long, on n'arrive pas à tenir sur la longueur.
Quelle chanson avez-vous choisi pour accompagner ce texte ?
J'ai choisi Back to Black d'Amy Winehouse, que j'ai beaucoup écouté pendant l'écriture de ce texte. En fait, j'allais courir souvent le soir avec elle sur les oreilles. Il y a dans sa voix et dans cet album et dans cette chanson en particulier une rage, une énergie, une force qui correspond à la dynamique de mon roman. Et donc ça me motivait. Et à battre des kilomètres. Je pourrais me mettre à courir autour de votre table.
Merci beaucoup.
Émilie Fraîche, qui nous présentait son roman Un homme dangereux, qui paraîtra aux éditions Stock. Les Bonnes Feuilles, Sandrine Trainer, Anne-Vanessa Prévost, Somanina, Juan Richard Dufour.